J'ai développé en fait des outils de médiation, donc c'est des ustensiles de cuisine, on va dire, et des recettes de cuisine qui mélangent culture provençale et culture d'Asie du Sud-Est. Et l'idée en fait c'est d'utiliser ces outils comme des outils de médiation. Donc exemple dans lequel on peut utiliser ces objets culinaires, ça serait par exemple tout simplement dans un marché où voilà, quelqu'un va cuisiner et tout d'un coup va expliquer le pourquoi du comment de la recette, de la forme de cet objet qui fait référence à une partie de l'histoire coloniale, etc.
J'aime bien citer Ali Swali parce que c'est un peu le Thomas Sankara des Comores.
Ce qui est important dans les constructions collectives kanak, c'est ceux qui portent la parole.
On dit très souvent que les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais.
Puis à partir du moment où il a commencé à y avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à fuir, et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France.
Diaspora et imaginaire des luttes.
Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant.
Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Diaspora et Imaginaire des luttes. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Alex Quache, qui est designer basé en région parisienne. Et aujourd'hui, on va parler de la diaspora cambodgienne. Salut Jean-Alex.
Bonjour Léopold, merci de me recevoir.
Merci à toi beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un petit moment qu'on prévoit cet épisode. Et donc, en fait, avant même toute chose, je vais d'abord te poser une question qui est... alors, je viens de dire diaspora cambodgienne, je pense que c'est effectivement ce qu'on va garder, mais peut-être qu'on peut d'ores et déjà... dire pourquoi diaspora cambodgienne et pas diaspora khmer, par exemple.
Oui, effectivement, on peut utiliser les deux mots cambodgien ou khmer dans le langage courant, en tout cas dans la langue cambodgienne. Par exemple, pour désigner le Cambodge, on dit Srok Khmer, ça veut dire le pays des khmer. Mm. Et en fait, Cambodge, c'est la latinisation du mot kampuchir, qui en khmer... Et en fait, c'est un mot qui vient du sanskrit et ça veut dire territoire des descendants de Kambu, donc qui était un sage au 9e siècle. Donc voilà, donc en fait, dans les deux mots Kamputier ou Sokmer, ça veut dire territoire des Khmer. Voilà, le Cambodge a plutôt, c'est plutôt lié à les Français qui ont latinisé le nom du pays.
Je posais aussi la question parce que, mine de rien, dans la diaspora cambodgienne en France, donc ce groupe, ces communautés très, très spécifiques, il y a aussi des personnes qui ne sont pas khmer, très simplement aussi. Donc c'est aussi pour ça que ça me semblait important de faire une distinction là-dessus. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Oui, tout à fait. Par exemple, moi, je peux prendre mon exemple de ma famille. En fait, nous, on est des Chinois Tetiu du Cambodge, c'est-à-dire, bon, je vais plutôt prendre l'exemple de mon côté paternel. Donc, mon grand-père est arrivé dans les années 30 au Cambodge. Donc, en fait, il venait d'une région en Chine, à un canton qui s'appelait Suan Trao. Et bon, il y avait des difficultés dans l'agriculture, la sécheresse, etc. Du coup, il est venu au Cambodge pour faire du business. Et ma grand-mère paternelle, elle, est depuis plusieurs générations au Cambodge et elle s'est vraiment assimilée à la population khmer. Donc, en fait, il y a eu beaucoup d'influence au cours des siècles, en fait. Mmh. Ouais.
Merci beaucoup. Et puis, du coup, j'en arrive à ce qui, d'habitude, est plutôt la première question que je pose à mes invités, à savoir quel est ton rapport à cette diaspora dont on parle aujourd'hui. Et toi, en l'occurrence, t'es quelqu'un qui, dans son, je sais pas si tu veux appeler ça militantisme ou dans son action associative ou quelque chose comme ça, est justement très ancré dans cette idée de diaspora. Donc cette question est encore plus particulière. Peut-être que tu pourras nous parler de Pouma Khmer aussi.
Oui, tout à fait. Bah, peut-être que, bah, comme je continue un peu sur mon enfance, comme, en fait, moi, j'ai grandi dans une forme de confusion un peu entre ce que c'était la culture cambodgienne et la culture chinoise. C'est-à-dire qu'on me disait, tu viens du Cambodge, mais en même temps, dans ma famille, on avait beaucoup d'éléments de culture chinoise. C'est-à-dire que mes parents, en fait, sont arrivés quand ils étaient petits, ils avaient 13, 14 ans, et du coup, eux, ils ont vraiment gardé la culture chinoise par rapport à la culture khmer, donc le pays qu'ils ont quitté en exil. Et du coup, jusqu'à mes études supérieures, donc après le bac, j'avais plutôt une vision un peu universaliste, et du coup, j'étais intéressé par la culture asiatique en général, mais pas spécifiquement la culture cambodgienne. Et c'est vraiment au cours de mes études artistiques que je me suis rendu compte que le fait d'être sino-cambodgien-français, c'était une culture à part en soi, et qu'il fallait s'intéresser du coup à cette diaspora cambodgienne pour comprendre en fait les différents profil en fait qu'il y a au sein même de la diaspora cambodgienne. Et ça, je l'ai découvert à travers le monde associatif.
Et du coup, tu peux nous parler de Pouma Khmer?
Oui, alors Pouma Khmer, en fait, on l'a créé donc l'année dernière, donc en janvier 2023. Et en fait, l'idée, c'est un peu la... Donc, j'étais pas tout seul à créer l'association, on était une équipe de 6. Et l'idée, c'est que c'est un peu la cristallisation, en fait, de notre rencontre. En fait, Pouma Khmer, ça veut dire les amis Khmer. Et en fait, nous, on s'est rencontrés dans une autre association où, en fait, on prenait des cours de cambodgien, de Khmer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas là juste pour apprendre la langue. On était là, en fait, pour se retrouver, pour comprendre nos origines, comprendre le récit de nos familles. Et en fait, on a eu de la chance parce que cette année-là, il y avait vraiment une dynamique autour de ces questions liées à l'héritage culturel et à l'identité. Et donc, au fur et à mesure de nos discussions, en fait, on n'était pas du tout... on n'avait pas du tout l'habitude d'aller dans des associations, dans des conférences militantes, etc. Et au bout de 3 ans, on a voulu créer notre association vraiment avec un axe fort sur cette question-là liée à la colonisation, au récit de nos familles et comment les deux, la grande histoire et la petite histoire, on va dire, se rejoignent, quoi.
Bah, ce type de questionnement semble en tout cas être assez, enfin traverse aussi ta pratique de designer. C'est en partie l'une des raisons pour laquelle ça me tenait à cœur de t'inviter pour cet épisode. Et du coup, bah, je me suis dit qu'on pouvait peut-être un petit peu commencer par ça. On va parler du riz et de la Camargue dans un moment, mais avant ça, est-ce que tu peux même nous parler de ton alors pas ton projet de diplôme, mais ton mémoire, pardon, de master, qui tournait beaucoup autour de la cuisine, et la cuisine comme véhicule de récits diasporiques. Je trouve ça super super intéressant, comme ça, de prendre toujours un véhicule, en fait, et du coup l'utiliser pour faire exactement ce que tu viens de dire, prendre ce qu'on a tendance à appeler la petite histoire, qui finalement n'est peut-être pas tant que ça la petite histoire, et pour parler de la grande histoire, qui n'est peut-être pas tant que ça la grande histoire. Tu peux nous en parler?
Bah, déjà, peut-être pour rappeler un peu, moi je me positionne comme un designer médiateur, c'est-à-dire que bon, ça va être peut-être un peu abstrait pour certaines personnes, mais ce que j'aime à dire, c'est que j'aime créer des projets dans lesquels j'invente des outils pour créer du dialogue entre différentes personnes. Et bah, j'ai utilisé en fait mes questionnements autour de mon identité tout au long de mon parcours scolaire, parce qu'en fait, bah, ça me prenait vraiment beaucoup d'espace mental, et du coup, je voulais le réintégrer dans ma pratique artistique. Et aussi, bah, en arrivant en école d'art, on te demande de te questionner sur des questions de société, sur déconstruire des systèmes, te positionner, etc. Et du coup, je ne pouvais pas le faire sans interroger bah, d'où je venais, ma propre culture, etc. Et c'est pour ça que, oui, à travers donc le documentaire que j'ai développé, qui s'appelle Grain de vie, en fait, j'ai développé un protocole. Donc, à chaque fois, en fait, c'est un documentaire qui est composé de quatre portraits, donc de personnes issues de la diaspora cambodgienne en France, donc de différentes générations. Et je leur demandais de me cuisiner une recette du pays et de me raconter les récits qu'il y avait autour de ces recettes. Et en fait, le véhicule de la cuisine, comme il baigne dans notre quotidien, en fait, la cuisine, bah voilà, on n'y prête pas forcément attention, mais en tirant les fils, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était porteuse en fait de plein d'histoires. Et c'était aussi une façon peut-être plus facile de pouvoir échanger autour d'histoires qui étaient très intimes et de questions bah, liées à des douleurs liées à l'exil, la guerre, etc., qui sont pas forcément faciles à aborder de prime abord, quoi. C'est-à-dire que si je venais avec ma caméra et que je faisais une interview comme ça en posant des questions directement sur la guerre, forcément, il y avait quelque chose qui m'allait pas là-dedans. Et du coup, j'ai voulu utiliser une façon un peu détournée, donc par la cuisine, pour développer ces thématiques.
Et donc, je me suis auto-corrigé sur cette question de projet de diplôme, parce que maintenant, c'est ça dont on va parler, c'est-à-dire le mémoire a mené un projet de diplôme, lui, beaucoup plus propre à un ingrédient en particulier, qui est le riz, et l'histoire de ces 20 000 travailleurs vietnamiens, laotiens et cambodgiens qui ont travaillé dans les rizières de Camargue, enfin qui ont été forcés de travailler, il faut bien le dire. Et du coup, tu as fait à la fois toute une recherche et même ce design de médiation, comme tu l'appelles, qui implique aussi des objets. Bah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, et n'hésite pas à prendre le temps qu'il faut pour ça.
Ok. En fait, je voulais réinvestir le médium de la cuisine dans mon projet de fin d'études. Et justement, je voulais que, en fait, dans mes vidéos, on voit les personnes dans leur intérieur, dans leur intimité, dans les cuisines. Et je voulais un peu sortir des maisons pour s'intéresser à l'histoire plus globale et donc à des questions plus, on va dire, géopolitiques. Et pour cela, c'est pour ça que je me suis intéressé à la production du riz en Camargue, parce que en fait, elle a dans son passé, là, y a un passé colonial en fait qui est derrière la production du riz en Camargue. Et donc voilà, je voulais. Et d'un autre côté, je voyais ma mère à la maison qui cuisinait le riz de plein de formes différentes. Et du coup, je voulais lier un peu ce que je voyais chez moi et cette histoire-là. Et donc, j'avoue que c'était un peu expérimental, on va dire. C'est une démarche, voilà, je ne savais pas où j'allais. Et en fait, j'ai développé toute une méthodologie où je suis allé sur le terrain. Je suis parti voir des acteurs locaux, des associations, etc. Et du coup, j'ai développé en fait des outils de médiation. Donc, c'est des ustensiles de cuisine, on va dire, et des recettes de cuisine qui mélangent culture provençale et culture d'Asie du Sud-Est. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser ces outils comme des outils de médiation. Donc, exemple dans lequel on peut utiliser ces objets culinaires, ça serait par exemple tout simplement dans un marché, où voilà, quelqu'un va cuisiner et tout d'un coup va expliquer le pourquoi du comment de la recette, de la forme de cet objet qui fait référence à une partie de l'histoire coloniale, etc. Et donc voilà l'objectif du projet. Et puis du coup, dans mes recherches, en fait, donc je connaissais pas du tout le riz de Camargue. Et je me suis rendu compte bah, que, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a du riz de Camargue dans le sud de la France? Eh bien, c'est parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il y a eu 20 000 travailleurs indo-chinois, donc qui venaient principalement de la Cochinchine, et une centaine du Cambodge, mais je crois qu'il n'y avait pas de Laotien.
D'accord.
Et en fait, ils étaient réquisitionnés pour venir en France pour aider dans les usines d'armement. Donc on les appelait les ouvriers non spécialisés. Et en fait, quand l'Allemagne a occupé la France, donc c'était dans les années 1940, ben les lignes maritimes étaient coupées et du coup on pouvait plus faire, il y avait plus de nourriture en France. Et en fait, les travailleurs qui travaillaient dans les usines d'armement se retrouvaient, on va dire, au chômage technique, quoi. Et du coup, on les a envoyés de faire des travaux agricoles et forestiers dans le sud de la France. Et 500 d'entre eux ont travaillé dans les rizières en Camargue. Et en fait, c'était une expérimentation, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait des productions rizicoles, mais c'était au XVIe siècle pour nourrir les animaux, quoi. C'était pas vraiment du riz pour la consommation humaine. Et donc, ils ont voulu réimplémenter ces rizières, mais cette fois-ci à destination de la nourriture pour les humains. Et en fait, il s'avère que cette expérimentation a très bien marché. Et en fait, ça a permis de nourrir la France pendant la guerre et d'enrichir aussi la région, quoi, et bien sûr, ces travailleurs qui travaillaient dans les rizières, ils avaient des conditions déplorables de travail et tout ce qu'on peut imaginer dans ce contexte-là, quoi. Et donc voilà, en apprenant toute cette histoire, je me suis dit, pourquoi est-ce que dans la région on en parle, mais il se passe, enfin, on sait pas trop, j'avais l'impression qu'on savait pas trop quoi faire de cette histoire. Alors il y a eu un mémorial qui a été édifié par une association locale en 2014 à la mémoire en fait de ces travailleurs indochinois, et donc c'est reconnu au niveau national, etc. Mais culturellement, par exemple culinairement, je trouve qu'on ne trouvait pas de traces de cette rencontre entre guillemets, de cet apport culturel qu'il y a eu de la part des travailleurs indochinois autour du riz. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu amener moi ma culture sino-cambodgienne et française pour justement donner une nouvelle vision du riz de Camargue en s'emparant de ces éléments historiques qu'on ne connaît pas au final.
Oui. Quand on dit on ne connaît pas, oui, c'est toujours la question de qui est on, effectivement, mais du coup, oui, effectivement, qui n'est pas très connu, on va dire, dans la société française en général, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, là, à travers ton projet, tu viens de nous parler d'une période historique qui est donc plutôt autour de la Seconde Guerre mondiale. Si on progresse un petit peu, et déjà qu'on rappelle que l'Indochine, ça vaut peut-être la peine de rappeler qu'il s'agit à la base de ce qui n'était pas encore le Vietnam, c'est-à-dire l'Annam, la Cochinchine et le Tonkin, et puis le Laos et le Cambodge. Et généralement, dans l'histoire de la libération de ces pays, on va dire les personnes qui s'intéressent aux luttes anticoloniales, mais peut-être n'ont peut-être pas forcément passé énormément de temps sur cette époque-là, vont connaître Dien Bien Phu, la lutte du Viet Minh, et puis ensuite évidemment la guerre qui s'en est suivie contre l'impérialisme états-unien et donc entre le nord et le sud du Vietnam spécifiquement. On reviendra à cette entre guillemets deuxième guerre. Mais pour rester sur la guerre de libération elle-même, on va dire que les récits de comment est-ce que des groupes cambodgiens ont participé à la libération de toute l'Indochine, avec des gros guillemets à Indochine, est peut-être de manière générale un petit peu moins connu. Et du coup, par exemple, le rôle qu'ont pu jouer les Khmer Issarak, par exemple, ça vaudrait peut-être la peine, justement, dans cette idée de podcast sur les imaginaires des luttes, voilà, qui sont-ils et de quelle manière est-ce que... Enfin, quel rôle a joué le Cambodge dans sa propre libération, donc jusqu'en 54. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, c'est une bonne question, parce que avant que tu m'envoies les questions pour préparer cet entretien, je ne connaissais pas les Khmer Issarak, donc j'ai fait mes propres recherches et je vais essayer de... un peu de retranscrire ce que j'ai compris.
Ouais, merci.
Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'en 1941, donc, les Français mettent au pouvoir le prince Sihanouk. Donc, à ce moment-là, le Cambodge est sous protectorat français, mais avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ne voient pas d'intérêt à être au Cambodge. Donc, ils mettent le prince Sihanouk au pouvoir.
Et... Ça, c'est Vichy, a priori.
Oui, c'est oui, ça. D'accord. Ouais. Et entre 1941 et 1945, donc la France s'est retirée. Et il y a aussi une courte phase d'occupation japonaise, donc qui mène une politique d'expansion en Asie du Sud-Est. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va y avoir la formation de mouvements nationalistes. Donc il y en avait plusieurs, dont les Khmer Issarak. Et donc c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les Français en fait vont revenir et vont imposer des élections et autoriser la formation de différents partis politiques. Et il se trouve que ça va être les démocrates qui vont gagner les élections. Et eux, ils veulent réduire le pouvoir de Sihanouk. Mais Sihanouk, il n'est pas... donc ça, il ne veut pas. Et donc, il va dissoudre l'Assemblée et décréter la loi martiale. Et donc c'est dans les années... pendant ce temps-là, en fait, il y a un groupe d'étudiants en France mené par Pol Pot, qui se forme et qui s'imprègne en fait des idées communistes. Donc ils font partie du Parti communiste français. Je sais que Pol Pot, il a été en Yougoslavie, il a été marqué par toute la doctrine communiste et en fait voilà, pendant ce temps-là il se passe ça. Et en fait en 53, donc Sihanouk négocie secrètement en fait l'indépendance du Cambodge auprès des Français, parce qu'il voit en fait ses étudiants revenir au Cambodge et avec toutes ces doctrines communistes, etc. Et donc il veut pas se faire voler le pouvoir, entre guillemets. Et donc, il va couper l'herbe sous le pied aux Khmer Issarak qui se sont battus pour l'indépendance du Cambodge. Et du coup, il va les écarter du pouvoir. Et pendant ce temps-là, ils vont en fait, apprendre avec les Viet Minh, donc les communistes au Vietnam, ils vont apprendre la guérilla, à la révolte, etc. Et c'est ce qui va mener en fait en 75 à la prise au pouvoir en fait des Khmer Rouges au Cambodge.
Ouais. On va y revenir à cette époque, mais c'est vrai que là on s'était un petit peu arrêté à 54 et oui. Donc l'indépendance des trois pays à travers les accords de Genève, n'est-ce pas? Oui. Mais du coup, entre-temps, il y a quand même, encore une fois, cette guerre qu'on appelle la guerre du Vietnam, ce qui est un nom ridicule en soi déjà à la base, parce que c'est évidemment qu'au Vietnam, on ne dit pas la guerre du Vietnam. Et puis, il est d'autant plus inapproprié que c'est vraiment une guerre qui touche également le Cambodge énormément. Je crois me souvenir, alors comme ça, c'est vraiment basé sur des souvenirs peut-être un petit peu diffus, mais... que il est possible que le Cambodge soit même le pays qui a été le plus bombardé dans l'histoire, tellement les États-Unis bombardaient en permanence le pays parce que le front révolutionnaire nord-vietnamien que les États-Unis appelaient Viet Cong, mais que la chose qu'on réalise pas forcément non plus, c'est que le Viet Cong en fait c'est une insulte. Passer par le Cambodge pour sa logistique et tout ça. Et puis Donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être un tout petit peu de cette période qui, bien évidemment, a dû marquer le pays de manière très, très forte ?
Donc, Sihanouk, dans sa politique de neutralité, en fait, il va s'allier avec un camp et l'autre. Et donc, ce qui, ça va générer, bah, en fait, le fait que, par exemple, en 65, il va donc autoriser les Vietnamiens du Nord à installer leur base pour pouvoir tracer ce qu'on appelle la piste Ho Chi Minh, qui permettait de ravitailler les troupes. Et donc, c'est pour ça que les Américains vont bombarder, en fait, toute cette région limitrophe entre Cambodge et Vietnam. Et aussi, ils vont aller encore plus loin en ciblant dans le pays des zones spécifiques militaires, on va dire. Et pour lier ça à mon récit familial, dans le documentaire que j'ai fait, donc il y a un épisode avec ma mère, et elle me raconte des bombardements, etc. Et en fait, c'est en faisant ces recherches que je me suis rendu compte, ah oui, en fait, c'est lié à cette époque-là, ça correspond à cette époque-là de l'histoire. Et moi, j'encourage vraiment les personnes qui s'intéressent aux récits familiaux à s'intéresser à l'histoire de leur famille, mais aussi à lier cette histoire aux grands événements qui se sont produits pendant la guerre, parce que rien n'arrive par hasard, parce que quand on apprend l'histoire à l'école, bah moi j'avais du mal à me rattacher à ce qu'on m'apprenait, et c'est un peu comme quand tu dis la guerre du Vietnam ou la guerre des Américains, selon de quel point de vue on se base, on nous donne pas toujours les deux points de vue, et du coup je trouve que c'est important en fait de se rappeler de notre histoire familiale pour aussi se projeter se sentir appartenir à toutes ces guerres mondiales finalement qui lient les pays, nos pays en fait.
Tout à l'heure tu as déjà évoqué du coup la formation des Khmer Rouges et leur accession au pouvoir en 75 pour donner donc le régime qu'on appelle Kampuchea démocratique, enfin du coup la Kampuchea tu le décrivais au tout début de la conversation comme étant l'autre nom du Cambodge, enfin c'est le même nom mais en Khmer. Et donc c'est important d'en parler parce que en 4 ans, bien évidemment, comme beaucoup de personnes le savent, il y a eu des centaines de milliers de personnes tuées par le régime. Et c'est important d'en parler aussi dans le contexte de cette conversation aussi parce que c'est beaucoup de la diaspora cambodgienne aujourd'hui vient de la fuite de ce régime. Donc c'est aussi quelque chose, alors peut-être pas commun à toute la diaspora, mais sans doute à un grand nombre. Donc je pense que ça va la peine qu'on y passe un petit peu de temps, si tu le veux bien.
Alors moi je sais que parmi la diaspora, il y a des personnes qui sont arrivées avant du coup la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges, donc 17 avril 75, et il y en a d'autres qui sont arrivés après, plutôt dans les années 80, et en fait, par exemple, c'est le cas de mes parents, ils sont arrivés donc en 74, parce que leur famille sentait que l'instabilité politique, on va dire, et donc on se retrouve dans des situations où, par exemple, mon père, à l'âge de 13-14 ans, il prend l'avion tout seul et il se retrouve en France dans un pays qu'il ne connaît pas. Et en fait, c'était pour, entre guillemets, étudier. Et il se trouve que, après, en fait, c'est lui qui a permis de faire en sorte que toute la famille, en fait, le rejoigne en France. Et c'était beaucoup plus facile pour la famille de revenir en France parce qu'il y avait une personne déjà qui était sur place.
Là, tu parles de tes grands-parents.
Je parle des survivants donc qui ont pu survivre du coup au camp, etc. Donc le régime des Khmer Rouges, en fait, c'est du coup une révolte communiste. En fait, c'était une organisation qui s'appelait ANCAR et qui avait pour but d'exterminer toute influence étrangère. Et donc de purifier entre guillemets la population, et donc tous les intellectuels étaient tués, donc Si tu portais des lunettes, tu pouvais te faire tuer. Donc il fallait vraiment montrer que tu étais paysan, en fait. Et donc, du coup, ce jour où les Khmers rouges ont pris Phnom Penh, en fait, ils ont prétexté une attaque américaine et ils ont fait sortir toute la ville de chez eux. Et la population a vraiment eu le temps de prendre quelques affaires et de sortir. Et en fait, ils les envoyaient tous dans les campagnes en fait, pour travailler dans des camps, en fait. Dans des camps où ils faisaient de l'agriculture. Et donc, du coup, dans mon histoire familiale, par exemple, moi, je sais que mon père m'a raconté que mon grand-père, comme il venait d'une famille d'agriculteurs en Chine, il appréciait des Khmers rouges parce qu'il savait faire pousser, par exemple, du tabac. Il savait faire pousser des légumes, etc. Donc, on le gardait. Et voilà, il fallait survivre comme ça en ne montrant pas qu'on était cultivé et qu'on était paysan. Et donc voilà, en fait, il y a les autres parties de la famille qui ont pu venir après, en fait, après la libération du pays. Et voilà, en fait, je pense que pour les personnes qui n'ont pas fait partie des camps, en fait, ils ont vécu aussi à leur manière cette séparation brusque où on ne peut pas appeler, oui, on ne peut pas se communiquer pour l'époque, donc ça a été une période très, très dure, ouais, sans compter les pertes des ancêtres qui sont partis, etc.
Oui, et puis, du coup, c'est ce que tu disais, les intellectuels, les urbains étaient effectivement sans doute les cibles du régime. Mais encore une fois, ça s'appelle le Khmer rouge, donc l'identité ethnique Khmer était aussi vraiment centrale, et du coup, le Cambodge, comme tout autre pays étant constitué d'un peuple tout à fait hétéroclite, comme on l'a dit, du coup, c'est aussi quand on disait au tout début qu'un certain nombre de la diaspora n'est pas forcément Khmer, au sens vraiment ethnique du terme. Parce que j'ai bien compris qu'il y avait aussi une utilisation qui est peut-être aussi basée sur la khmérophonie ou une compréhension plus large de ce que c'est que d'être cambodgien et donc peut-être d'être khmer. Mais disons qu'on va dire que les Khmers rouges n'avaient pas forcément cette compréhension très, très ouverte du terme. Et du coup, des populations qu'on pourrait appeler immigrées, mais depuis plusieurs générations, se retrouvaient aussi au centre du viseur, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Il suffisait que tu parles une autre langue et tu étais considéré comme un intellectuel. Donc, il fallait pas montrer que tu étais autre chose que Khmer. Et aussi, je voulais peut-être ajouter sur cette question que finalement, en fait, pendant le protectorat français, en fait, la communauté chinoise qui avait au Cambodge faisait partie de l'élite en fait cambodgienne, donc pas tout le monde, mais une grande partie faisait partie de l'élite cambodgienne, et du coup forcément je pense que si les Khmers rouges savaient que t'étais chinois, ils devaient faire le lien et ils devaient te tuer pour cette raison. Et j'ai lu dans un mémoire de fin d'études de Daniel Tran qui parle en fait de la diaspora chinoise au Cambodge, et elle explique que finalement avec la colonisation française, en fait il y a eu depuis plusieurs siècles, il y avait déjà des Chinois en fait qui venaient au Cambodge et qui s'assimilaient complètement à la population khmer, et en fait c'est à l'arrivée des Français que en fait ils ont créé des classes et ils ont vraiment ils voulaient ça était à leur avantage que les Chinois restent qu'avec les Chinois et que les Khmers étaient considérés comme des paysans, etc. Et donc ça a divisé un peu les différentes ethnies qui cohabitaient au départ au Cambodge.
Oui, j'ai bien peur que ce soit une histoire profondément banale, malheureusement, cette espèce d'ethnicisation à outrance. Enfin, on enregistre cet épisode à quelques jours de la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, qui est évidemment produit de la même manière par les colonisateurs belges. Mais oui, du coup, c'est assez reconnaissable comme motif, malheureusement. Et alors, j'ai une dernière question pour toi qui, du coup, là, nous remet complètement dans la diaspora. Et le fait que on en est à la deuxième ou troisième génération généralement de membres de cette diaspora, même si du coup, alors je ne savais pas avant que tu le dises que ton papa, toi, était arrivé à 13 ans, donc la première génération était potentiellement très jeune. Et je voulais un petit peu te demander si tu percevait, on va dire, des différences générationnelles dans la manière dont les membres de cette diaspora, même si évidemment que les membres de cette diaspora ne pensent pas tous de manière uniforme politiquement, mais voilà, dans la manière dont les personnes pensent politiquement, notamment parce que voilà, encore une fois, la partie de la diaspora qui arrive ici en fuyant un génocide motivé par, en tout cas, une doctrine et communiste, enfin en tout cas qui se réclame du communisme et tout ça, de la même manière qu'on le voit avec la diaspora peut-être sud-vietnamienne, on en avait parlé un petit peu avec Eleanor Tran. On va dire que c'est des diasporas qui du coup un peu vivent avec ce traumatisme-là et on va dire ne peuvent pas voir des idéaux de gauche en peinture. Chose qui a tendance un peu à changer à mesure que les générations se succèdent, évidemment. Et du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis sur peut-être l'évolution un petit peu de cette pensée politique au sein de la diaspora dont toi tu fais partie.
En fait, je me dis la génération de mes parents, qu'en fait, finalement, c'était il n'y a pas si longtemps en fait, qu'ils sont arrivés en France. Quoi. Mais en fait, quand tu arrives comme ça, que tu es jeune et que tu dois tout reconstruire et que tu dois survivre finalement pour avoir un meilleur futur, tu peux pas. Je me demande s'ils ont le temps de vraiment se réfléchir à de quelle partie ils sont, ou de s'ils sont de gauche ou quoi. En fait, eux, ils veulent. Je pense que pour mes parents, eux, ils voulaient juste survivre et offrir un futur pour leurs enfants, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu... J'arrive pas trop à déterminer si ils sont vraiment politisés, dans le sens où nous, on a le temps, nous, de venir discuter pendant une heure de l'histoire, etc. En fait, dans leur vie, je pense qu'ils avaient pas le temps, en fait, de s'instruire avec toutes les ressources, de prendre le temps, en fait. Par exemple, nous, on a tout juste fait des études artistiques. Voilà, moi, mes parents, ils m'ont offert cette chance de pouvoir faire de nos 8 ans d'études en design, où j'ai le temps de me questionner sur le pourquoi, du comment, de mon identité, etc. Et donc, c'est vrai, j'ai un peu du mal à répondre à ta question. J'arrive pas à... J'ai jamais, en tout cas, entendu de parti pris politique fort venant de mes parents. Après, ce que j'ai entendu, c'est plutôt des... les traces de la colonisation française sont encore là. Donc, j'entends mon père qui dit certaines choses, etc. Mais c'est pas comme un positionnement fort comme... nous on peut l'avoir, par exemple,
certaines choses étant du coup empreintes peut-être de l'idéologie française coloniale, c'est ça que tu veux dire?
Non, pas forcément. Non, il dit okay. par exemple il me parle souvent des temples d'Angkor et il me dit il y a eu beaucoup de vols dans les temples et...
André Malraux,
ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense qu'ils sont conscients de plein de choses de l'histoire. Après, je veux pas parler à leur place parce qu'il y a des choses que je sais pas, donc il faudrait que je discute justement avec eux sur cette question, mais j'ai pas, en tout cas c'est pas sans une forme de revendication d'un parti politique, et après je sais que dans l'histoire il y a eu des associations qui se sont créées au fur et à mesure des générations. Voilà, mais je ne les connais pas assez pour vous faire un historique des associations, etc. Oui, peut-être pour conclure un peu notre discussion, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que nous, notre génération, enfin ma génération et les futurs, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire de nos parents qui ont quand même marqué nos trajectoires, et comment on les porte avec nous et comment on les transmet en fait. Parce que finalement, c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'accéder à ces récits, parce que finalement, moi j'ai entrepris tous ces projets artistiques parce que je voyais ma famille prendre de l'âge, être malade, etc. Et du coup, j'avais cette urgence-là de vouloir connaître mon histoire avant qu'on ne puisse plus me la raconter, en tout cas de ma famille, des personnes qui ont vraiment vécu cet exil-là, ce génocide-là. Et du coup, c'est pour ça que je fais tous ces projets, c'est pour transmettre et partager ce que moi, mon cheminement, et que d'autres puissent aussi aller peut-être plus vite même dans tous ces questionnements, et de se retrouver dans cet héritage culturel-là.
Super, un grand merci Jean-Alex. Je pense que si certaines générations vont plus vite, c'est justement parce que ce qui a été construit derrière pour leur permettre d'aller entre guillemets plus vite, pour utiliser ton expression. Donc je pense que justement le travail que tu entreprends permet ça. Donc voilà, encore un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis vous trouverez sur notre site, en relation à cet épisode, les objets que tu as dessinés, dont tu nous parlais tout à l'heure. Encore merci.
Merci beaucoup.